Bonsoir Emmanuel, bonsoir à tous. Des millions d'Américains s'inclinent devant la dépouille de George Floyd. Le cercueil du père de famille noir tué par la police est exposé ce soir à Houston. Nous serons sur place avec notre envoyé spécial Grégory Phillips. À Minneapolis, Derek Chauvin, le policier qui a asphyxié George Floyd, comparé pour la première fois devant la justice, une audition suivie par Loïc Loury. En France, le gouvernement sort de son silence sur la question des violences policières. Le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, annonce une série de mesures pour retisser le lien entre la population et les forces de l'ordre. Faut-il accélérer le déconfinement et notamment le retour à l'école? Le ministre de la Santé, Olivier Véran, appelle à la prudence car le virus circule toujours. Le patron de la CFDT, Laurent Berger, lui, dénonce le cafouillage du gouvernement sur la reprise des cours. Enfin, une étape importante dans le chantier de Notre-Dame de Paris, le démontage de l'échafaudage qui enserrait la cathédrale avant l'incendie d'avril 2019. Valentine Letès a suivi les premières opérations aujourd'hui. L'Amérique s'apprête donc à rendre un vibrant hommage à George Floyd, mort lors de son interpellation le mois dernier à Minneapolis. Les obsèques auront lieu demain à Houston, la métropole texane où Floyd a longtemps vécu. Mais dès ce soir, la population peut se recueillir sur sa dépouille. Nous sommes en direct de Houston avec notre envoyé spécial Grégory Phillips. Bonsoir.
Bonsoir.
Grégory, le cercueil de George Floyd est exposé ce soir dans une église de la banlieue de Houston.
Oui, ils sont déjà plusieurs dizaines à patienter sous un soleil de plomb pour dans une heure le début à proprement parler des cérémonies ici à Houston, Texas, la ville natale de George Floyd. Sa dépouille va être toute la soirée exposée au public et la file d'attente continue de grossir dans une ambiance très recueillie. Vous entendez peut-être déjà la musique derrière moi. Il y a ici notamment des gens de son quartier, le Third Ward, au sud de Houston, quartier afro-américain très défavorisé. Et les gens ont été terrifiés quand ils ont vu la vidéo de la mort de Floyd à Minneapolis. On ne peut pas laisser ça passer, me disait tout à l'heure une habitante. Il faut que la peur des policiers disparaisse pour moi, pour nos enfants, pour vos enfants. C'est aujourd'hui aussi que l'ancien vice-président et candidat démocrate Joe Biden doit venir à Houston pour rencontrer la famille de Floyd et présenter ses condoléances. Et puis demain, inhumation de George Floyd aux côtés de sa mère, Miss Sissy, disparue il y a 2 ans. Là, ce sera une cérémonie privée pour les amis et pour la famille. Mais un vieil homme qui attend de pouvoir pénétrer ici dans cette église, Fountain of Praise, me disait tout à l'heure, le combat ne s'arrête pas avec l'inhumation de George Floyd. Il faudra qu'on continue à se battre, au moins jusqu'à la présidentielle du 3 novembre.
Grégory Phillips, envoyé spécial à Houston, merci. On retiendra aussi ce geste fort d'une vingtaine d'élus démocrates au Congrès américain. Ils se sont agenouillés aujourd'hui dans le hall de l'émancipation du Capitole à Washington. Ils ont ensuite observé 8 minutes 46 de silence en hommage à George Floyd, 8 minutes 46, la durée pendant laquelle le policier blanc Derek Chauvin a appuyé son genou sur la nuque de George Floyd le 25 mai dernier à Minneapolis. Derek Chauvin qui doit commencer à s'expliquer devant la justice américaine. Loïc Loury, bonsoir.
Bonsoir.
Derek Chauvin comparé dans les heures qui viennent pour la première fois devant un juge à Minneapolis.
Oui, alors on parle d'une audience technique, hein, une audience de procédure pour Derek Chauvin. Ce sera par vidéoconférence, mais c'est un premier pas en direction de cette justice que réclament les manifestants. Rappelons qu'il avait d'abord fallu attendre 4 jours pour que le policier soit arrêté après la mort de George Floyd. Il n'avait alors été inculpé que pour un homicide involontaire et cela avait alimenté la contestation. Mais depuis, le dossier a changé de main. Derek Chauvin a été inculpé pour un homicide, cette fois volontaire, sans préméditation. Il risque jusqu'à 40 ans de prison. Quant à ses 3 coéquipiers, ils seront, eux, jugés pour complicité. Ils avaient dans un premier temps échappé à toute poursuite. 2 d'entre eux, pourtant, avaient bien aidé à maintenir George Floyd plaqué au sol pendant que le dernier surveillait la foule. A priori, il n'y aura pas de solidarité entre ces 4 hommes. 2 d'entre eux, jeunes recrues, ont en effet déjà affirmé qu'ils avaient, lors de cette arrestation, suivi les ordres de Derek Chauvin, un vétéran, ce Derek Chauvin de la police de Minneapolis, pardon, contre qui 18 plaintes avaient déjà été déposées.
Loïc Loury, correspondant aux États-Unis en direct de New York, merci. En France, le gouvernement s'empare officiellement de la question des violences policières et du racisme au sein de l'institution. Le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, vient de s'exprimer pour dire qu'il serait intraitable sur le sujet. Une prise de parole qui intervient au moment où le média en ligne Street Press dévoile de nouveaux messages racistes échangés par des membres des forces de l'ordre sur un deuxième groupe Facebook. En janvier déjà, Emmanuel Macron avait réclamé des actions concrètes à son ministre de l'Intérieur. Margot Delpierre, Christophe Castaner s'est exécuté aujourd'hui en dévoilant plusieurs mesures et notamment l'abandon de méthodes d'interpellation controversées.
Je veux une tolérance zéro contre le racisme chez les forces de l'ordre, assure Christophe Castaner. Le ministre de l'Intérieur estime que ces dernières semaines, trop ont failli dans leur devoir républicain. Je veux, dit-il, que chacun sache que quand on porte l'uniforme bleu de la loi, on ne se situe jamais au-dessus d'elle. C'est pourquoi il a demandé à ce qu'une suspension soit systématiquement envisagée pour chaque soupçon avéré d'actes ou de propos racistes. Et désormais, l'évaluation de la formation continue des policiers comme des gendarmes intègre la sensibilité aux discriminations. Le cadre des contrôles d'identité sera également rappelé à chacun, car un contrôle, ce n'est pas une note de gueule, affirme le ministre. Il a aussi annoncé l'abandon de certaines méthodes controversées, celle de la prise par le cou ou méthode de l'étranglement, ne sera plus enseignée. Et si les forces de l'ordre doivent maintenir quelqu'un au sol pendant une interpellation, il sera interdit de s'appuyer sur sa nuque ou son cou. Il lance enfin une réforme profonde des inspections pour plus d'indépendance, à l'heure où l'IGPN, la police des polices, souvent critiqué, publie son rapport annuel. Ces annonces vont-elles satisfaire les manifestants qui régulièrement, depuis une semaine en France, dénoncent les violences policières ? Pour bâtir la police de la confiance, assure Christophe Castaner, nous avons besoin de chacun. Mais il n'est pas revenu sur la méthode du plaquage ventral, elle-même très critiquée, méthode au cœur des enquêtes sur la mort d'Adama Traoré et de Cédric Chouviat.
Margot Delpierre, merci. Le malaise qui peut exister parfois entre la population et les forces de l'ordre se retrouve aussi dans le dernier rapport du défenseur des droits Jacques Toubon. En 2019, les dossiers liés à la déontologie de la sécurité ont augmenté de près de 29% sur les quelques 2000 contestations reçues. Le défenseur des droits a conclu à un manquement des agents dans 10,7% des cas. Jacques Toubon était l'invité de notre journal de 12h30. L'occasion pour lui d'insister sur le respect de la déontologie au sein des forces de l'ordre.
Qu'est-ce que c'est la déontologie ? C'est les règles du comportement professionnel, par exemple la nécessité et la proportionnalité de toute intervention, l'usage proportionné de la force. Et naturellement, cette déontologie pour la police ou la gendarmerie est particulièrement prégnante dans la mesure où ce sont des forces qui, de par la loi, de par notre contrat social, sont en charge de faire respecter la loi lorsqu'elle ne l'est pas, et ils disposent pour ça de la violence légitime. Donc leur comportement doit être particulièrement exemplaire, et c'est de cela qu'il s'agit. J'ajoute que nous avons fait aussi un travail de fond pour essayer de voir quelle était, d'objectiver la réalité sociale. Et dans une enquête en 2016, nous avions déterminé que un jeune de 25 ans considéré comme noir ou maghrébin avait 20 fois plus de probabilité d'être contrôlé par un contrôle d'identité que toute autre personne. On voit bien qu'il y a à la fois le respect d'un certain nombre de principes juridiques, nous le faisons avec naturellement la justice, et puis il y a de notre côté un état social qui mérite d'être amélioré. C'est pour ça que nous avons fait des propositions, comme par exemple, il faut garder une trace des contrôles d'identité, et il faut pouvoir les contrôler sur la base du code de procédure pénale et de la jurisprudence que la Cour de cassation a déterminée en 2016 sur les contrôles discriminatoires.
Jacques Toubon répondait à Thomas Cluzel et Antoine Marette. Interview à retrouver sur franceculture.fr. À noter qu'après 6 ans de mandat, Jacques Toubon quittera ses fonctions de défenseur des droits à la fin juillet. Les discriminations raciales systémiques sont-elles enracinées en France ? C'est la question qu'Emmanuel Laurentin posera à ses invités dans le temps du débat, juste après ce journal. Faut-il assouplir le protocole sanitaire dans les écoles pour accélérer le retour en classe des élèves? Le ministre de l'Éducation, Jean-Michel Blanquer, avait évoqué cette possibilité jeudi, sans donner de date. Dimanche, le président du conseil scientifique, Jean-François Delfraissy, avait plaidé en faveur d'un allègement des règles d'ici la fin juin, notamment pour les repas, les récréations ou le sport. Le débat a rebondi aujourd'hui avec l'appel à la prudence d'Olivier Véran. En déplacement à Argenteuil, le ministre de la Santé a mis en garde contre tout relâchement prématuré.
La situation s'est améliorée, continue de s'améliorer, mais nous montrons aussi qu'il est trop tôt pour relâcher en aucune manière notre vigilance, celle du système sanitaire, mais celle des Français également. Je comprends évidemment les demandes, les attentes, l'impatience qui peut s'exprimer d'avoir la capacité de reprendre notre vie normale au plus vite, mais sans laisser aucune chance au virus de repartir. C'est trop important, donc nous évaluons la situation au jour le jour, en fonction des indicateurs, en fonction aussi du niveau de saturation de notre système de santé, avec des gens, ici y compris des médecins, qui vous disent « attention quand même ». Les études sont très importantes. Il y a encore des choses qui sont à étayer. C'est aussi l'observation en pratique courante, c'est-à-dire dans la vie réelle, comment ça se passe réellement dans les écoles. On va avancer avec détermination, on va faire attention à tout ce qu'on fait, mais il faut permettre aux enfants de retrouver le chemin de l'école.
Le ministre de la Santé, Olivier Véran, a aussi précisé que la France n'avait pas encore atteint son objectif de 700 000 tests hebdomadaires de dépistage. Cette semaine, environ 300 000 tests seront réalisés. Alors, parmi les voix qui s'élèvent pour s'interroger sur les conditions du déconfinement, il y a celle de Laurent Berger. Le secrétaire général de la CFDT n'appelle pas explicitement à une accélération de ce déconfinement, mais il critique, je cite, le cafouillage autour du retour à l'école. Laurent Berger estime que cette situation confuse est de nature à mettre en difficulté les travailleurs. Les explications d'Yvan Planteil.
À l'école, ça commence sérieusement à ressembler à un certain cafouillage. Pour pas dire plus.
Dans une conférence de presse faite à distance, le patron de la CFDT, le premier syndicat de France, dénonce les conditions de reprise, je cite, « erratiques » dans les écoles. Ce cafouillage donc, dans lequel parents et enfants se retrouvent plongés, on le rappelle, depuis le 11 mai, date du déconfinement en France, près d'un élève sur trois a retrouvé les bancs de l'école et au collège, le chiffre tombe à 1 sur 5. C'est bien trop peu pour Laurent Berger. Selon lui, cette situation perturbe les parents qui travaillent et qui se mettent dans des conditions difficiles pour s'organiser. Il explique que la crise sanitaire de la Covid-19 a mis en lumière ceux qui peuvent s'adapter et ceux qui ne le peuvent pas. En d'autres termes, les inégalités sociales. D'autres syndicats sont plus explicites que le numéro 1 de la CFDT, à commencer par Jean-Eudes Duménil, le secrétaire général de la CPME, la Confédération des petites et moyennes entreprises. Pour lui, accélérer le retour à l'école des enfants, c'est dans le même temps accélérer la reprise de l'activité dans le pays, ou plutôt la finaliser, car selon Muriel Pénicaud, ministre du Travail, 80% des Français ont déjà repris leur poste.
Yvan Planteil, merci. Alors, s'il est un secteur économique qui a particulièrement souffert de la crise sanitaire, c'est celui du tourisme, notamment les entreprises du voyage, agences de voyage, plateformes de réservation ou infrastructures d'accueil. Les professionnels du secteur ont commencé à ressentir les effets de la crise dès la fermeture des frontières et la levée des restrictions de déplacement ne suffira pas à redresser la situation. D'ores et déjà, ils chiffrent leur perte d'exploitation pour 2020 entre 600 millions et 1 milliard d'euros, et cela malgré les aides de l'État. Anne-Laure Chouin, il convient toutefois de nuancer le tableau. Le voyage loisir se porte mieux que le voyage d'affaires.
Si l'on en croit une étude de BVA parue hier sur les intentions de vacances des Français, 59% d'entre eux disent vouloir partir en vacances cet été, un léger frémissement se fait sentir dans le secteur du tourisme de loisirs. Frémissement que constatent en effet les professionnels, notamment les gérants de camping qui ne s'attendaient pas à voir revenir si vite les réservations pour l'été. Sans doute l'effet rassurant des protocoles de respect des gestes barrières mis en place dans les lieux accueillant des touristes, l'effet aussi de l'engagement des professionnels de rembourser les réservations si celles-ci ne peuvent être garanties pour des causes sanitaires, en cas par exemple de deuxième vague, sans doute enfin un désir de changer d'air et de lieu après de longs mois de confinement. Cela ne suffira pas à éponger les pertes subies, notamment sur le créneau voyage à l'étranger. C'est habituellement un tiers des Français qui voyagent à cette période de l'année. La proportion s'est réduite pour 2020 à 13%. Et puis il y a le secteur durablement sinistré du voyage d'affaires. Là où le voyage de loisirs est souvent en rapport avec le moral des ménages, le voyage d'affaires, lui, est un indicateur traditionnel. professionnelle de la santé économique des entreprises. Et les voyants sont au rouge, au moins jusqu'en 2022, estime le syndicat des entreprises du voyage. L'inactivité est totale depuis le 15 mars et rien n'indique une reprise rapide. Sans compter que les entreprises plus soucieuses de leur image hésiteront peut-être à l'avenir à faire partir trop loin leurs employés.
Anne-Laure Chouin, merci. La crise sanitaire n'aura pas épargné le géant pétrolier BP. Le groupe britannique annonce la suppression de 10 000 emplois dans le monde, soit 15% de ses effectifs. BP paye la chute des cours du pétrole, mais aussi la remise en cause des énergies fossiles dans la lutte contre le réchauffement climatique. Antoine Gignot nous appelle de Londres.
2000 au Royaume-Uni, 8000 dans le reste du monde. Au total, 15% des salariés de BP vont quitter l'entreprise avant la fin de l'année. Ce sont essentiellement des postes dans les bureaux du groupe qui disparaissent. La faute, explique le PDG, à la baisse des cours du pétrole. Le prix du baril de brut au plus fort de la crise a été divisé par 3, descendant au-dessous de 18 euros. Nous dépensons au jour le jour, dit-il, beaucoup plus d'argent que ce que nous gagnons. La dette du groupe a effectivement, au premier trimestre, augmenté de près de 5 milliards d'euros. Conséquence de ce ralentissement économique, les cadres supérieurs n'auront cette année pas d'augmentation et BP va diviser le nombre de postes d'encadrement par 2 en restructurant l'entreprise pour améliorer le bilan carbone et privilégier les énergies à faible émission. Les actionnaires, en revanche, vont continuer à toucher une rémunération.
Antoine Gignot, notre correspondant au Royaume-Uni. Le pessimisme de la Banque mondiale, l'économie planétaire doit se contracter de 5,2% cette année à cause de la crise du coronavirus. C'est du jamais vu depuis la Seconde Guerre mondiale, mais c'est le nombre de pays qui se retrouveront en récession qui fait de cette crise la pire depuis la Grande Dépression des années 1870. C'est ce que souligne aujourd'hui la Banque mondiale dans une étude. Retour en France pour évoquer une étape importante dans le chantier de Notre-Dame de Paris, le démontage de l'échafaudage qui avait été installé avant l'incendie d'avril 2019. Ce démontage a débuté ce matin. Une énorme grue et des nacelles entourent la cathédrale. C'est un reportage de Valentine Lettès.
Les grues tournoient, les machines ronflent, signe d'un nouveau départ pour ce chantier arrêté pendant le confinement, raconte Thierry.
C'est une renaissance. Et je suis complètement bluffé par les travaux colossaux qui sont entrepris pour retrouver cette chère Notre-Dame qu'on adore.
Et les passants curieux comme lui sont nombreux à lever la tête en direction des grues de 80 mètres de haut. C'est le cas de Michel.
C'est un peu excitant. La technicité, la précision qu'il a l'air de falloir mettre en place, le courage, je ne sais pas, mais en tout cas le professionnalisme des intervenants, on les voit là déambuler dans les échafaudages. C'est presque irréel.
Deux équipes de 5 cordistes se relaient pour découper à l'aide de 6 sabres les 40 000 pièces de l'échafaudage fondues pendant l'incendie. Une opération délicate, rappelle le maire du 4e arrondissement, Ariel Veil.
Tant qu'il ne sera pas démonté, non seulement on peut s'imaginer qu'on n'est pas totalement en sécurité, il y a le risque de l'échafaudage lui-même, il y a le risque qu'une pièce tombe sur un élément de structure de la cathédrale. Il ne paraît pas que c'est une épée de Damoclès qui pèse au-dessus des riverains que cet échafaudage, mais quand même.
Et pour s'en rendre compte, on va prendre un peu de hauteur au 6e étage de la rue du Cloître de Notre-Dame.
Vous voyez la grande grue qui commence à tourner, haute de 84 mètres, et c'est elle qui va nous permettre de retirer les morceaux de l'échafaudage.
Christophe Rousselot, délégué général de la Fondation Notre-Dame.
C'est vraiment comme une toile d'araignée en quelque sorte qui a emprisonné la cathédrale. C'était l'obsession, si je puis dire, de tout le monde que de se dire il faut absolument que cet échafaudage quitte la cathédrale.
Une sacrée ironie pour Martine Parisienne.
Cet échafaudage qui était là pour la flèche et qui a failli tout détruire, on lui en veut de façon terrible. Et en même temps, maintenant qu'il est consolidé, on a hâte de le voir partir complètement.
Comme beaucoup, Martine suivra donc son nouveau feuilleton favori tout au long de l'été.
Valentine Lettès sur le chantier de Notre-Dame avec Raymond Albouy pour les moyens techniques. À noter que le général Jean-Louis Georgelin, qui pilote le chantier de restauration de Notre-Dame, a reconnu qu'il y aurait un coût supplémentaire dû à tous les retards, coût qui n'a pas encore été chiffré pour le moment. L'achèvement de la phase actuelle de sécurisation de l'édifice est toujours prévu avant la fin de cette année. On termine ce journal avec le temps. Demain, marqué par une amélioration au nord-ouest avec des éclaircies. Partout ailleurs, le ciel restera encombré de nuages, les averses seront nombreuses. Les températures minimales restent fraîches pour la saison, de 7 à 12 degrés en général, jusqu'à 17 degrés près de la Méditerranée. Les maximales seront, elles, comprises entre 15 et 26 degrés du nord au sud. C'est la fin de ce journal préparé ce soir avec Jean-François Braun.